Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle soirée au forum de la MSH pour accueillir une revue. Je suis Yannick Keravec, directeur d'entrevue et ravi de vous accueillir et d'accueillir une revue que nous suivons depuis ses débuts. J'ai épilogué il y a quelque temps sur les adjectifs autologiques. C'est très simple en réalité. Par exemple, bref, donc c'est autologique. En revanche, bref n'est pas monosyllabique, donc ce n'est pas autologique. Vous me suivez? Nous recevons ce soir une revue qui porte un nom autologique, c'est-à-dire la revue Mirabilia est tout simplement merveilleuse. Je crois qu'en fait, Mirabilia dit ce que c'est, donc cette revue que nous avons du plaisir à voir, à revoir, à retrouver, ça faisait longtemps. Elle a mis quelques mois, voire quelques années pour préparer ce dernier numéro qui se présente à vous, et donc qui va parler d'Épicure, de la patience, de l'hiver, moi je dirais plutôt peut-être aussi de l'impatience du printemps qui va venir, mais ceci va nous être expliqué par Anne Guglielmetti, l'ai-je bien prononcé, par Vincent Gilles, facile, et par Myriam. Décidément, je n'ai pas la mémoire des noms, pourtant un nom lui-même merveilleux, Myriam Ruby, conteuse, qui va nous conter. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée sous l'égide donc de la MSH qui nous accueille ici dans ce lieu et les bons soins d'Emmanuel, de l'équipe audiovisuelle. Dans quelques semaines, de toute façon, pour ceux qui n'auront pas pu venir, ce sera mis en ligne sur Canal U. Et je vous souhaite à tous une belle soirée.
Yannick exagère, on n'a pas mis quelques années à faire ce numéro. On s'est juste interrompu quelques mois, entre le numéro précédent qui portait sur le théâtre, qui était un peu différent dans sa conception que nos numéros habituels, et ce numéro qu'on a appelé Épicure 1, la patience l'hiver. Alors, généralement, on n'a pas trop froid aux yeux, donc on s'attaque, si je puis dire, ou on se place pour ce numéro et les deux numéros à venir sous l'égide d'Épicure. On va vous raconter pourquoi et comment. Ça nous a semblé important ces trois numéros sont un peu différents, un peu plus peut-être, le mot est à prendre avec précaution, mais un peu plus militants que les numéros précédents. C'est-à-dire que, d'après moi, il s'inscrit un peu plus dans notre époque, en fait, avec un regard qui nous paraît plus actuel que des numéros qu'on a pu faire sur les oiseaux, sur les arbres. Voilà, qui s'intéressait au merveilleux sous un aspect un peu plus merveilleux. Celui-là s'intéresse toujours au merveilleux, mais sous l'égide d'Épicure.
Alors, je suis désolée de te contredire, mais...
Ça commence bien.
Mais je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que les oiseaux, l'arbre, les oiseaux sont moins... Enfin, étaient des thèmes moins militants. Non, au contraire. Ce sont des thèmes d'une actualité hélas brûlante puisque tout ça disparaît et donc on ne diverge pas dans notre orientation et en effet ce numéro sur la patience qui sera suivi d'un autre sur l'espérance et d'un troisième sur la gratitude, ce numéro va dans le même sens, à savoir qu'est-ce qui nous manque ? On explore ce qui nous manque et ce qui nous manque c'est en effet, la beauté du monde. Et cette beauté, elle existe encore. Il suffit d'ouvrir les yeux. Et si elle existe encore, peut-être que c'est plus pour très longtemps, donc il faut la défendre. Et en la défendant, on se défend nous, on défend l'être humain. Voilà, c'est pas le but de ce numéro de Mirabilia, mais c'est du moins le désir de cette publication. Je te rends la parole après cette interruption, excuse-moi.
Bon, j'espère ne pas être contredit. La rencontre avec Épicure, elle s'est faite via un livre qui est celui-ci, un livre de Robert Harrison, cet essayiste et professeur de littérature dans une université américaine, et ce livre qu'il a écrit sur les jardins et qui est sous-titré « Réflexions sur la condition humaine ». Et donc, cette promenade au sein de différents jardins, à un moment donné, Robert Harrison s'arrête dans le jardin d'Épicure. Et on a été frappé par ce qu'il nous dit d'une manière qu'Épicure a de considérer le temps dans lequel on vit et d'être attentif à différents aspects de ce temps et à différentes conditions dans lesquelles on peut nous regarder ce temps. Et alors ce ne sont pas exactement des vertus, mais il prône trois dispositions qui sont la patience vis-à-vis du présent, l'espérance vis-à-vis de l'avenir et la gratitude vis-à-vis du passé. Et quand on a parlé de ces ensemble de ces trois dispositions, on a évoqué l'idée de pouvoir consacrer une trilogie de Mirabilia à ces trois dispositions, en y associant trois saisons, enfin les saisons, c'est-à-dire l'hiver associé à la patience, le printemps associé à l'espérance et l'été et l'automne associés à la gratitude. Donc on s'est lancé dans cette aventure de cette trilogie en essayant peut-être de, on le verra au fur et à mesure des numéros, mais de tisser des ponts aussi d'un numéro à l'autre en s'intéressant à des aspects naturels, à des aspects, par exemple, il y a un article dans La Patience écrit par un instituteur. Il est peut-être probable que dans le numéro sur la gratitude, il y aura un article consacré à la gratitude qu'on peut éprouver pour un enseignant qui vous a profondément marqué. Donc de tisser d'un numéro à l'autre comme ça des fils qui permettent de les relier.
Oui, quand on s'est arrêté sur Épicure et sur ces trois, ce qu'il appelle trois vertus, elles nous ont semblé fondamentales et elles nous ont semblé avoir disparu de notre univers contemporain. L'un et l'autre, et la patience, il faut qu'on y réfléchisse à deux fois. Enfin, on est comme tout le monde, très très impatient, pris dans un maelstrom de vitesse, de toujours plus vite, de toujours plus rapide. L'espérance, par les temps qui courent, on s'est posé énormément de questions. Comment prendre ce numéro? D'ailleurs, on vous interrogera tout à l'heure si vous voulez bien nous répondre. Ce qui est pour vous l'espérance, ça nous aiderait. Et quant à la gratitude, c'est aussi une notion et une réalité qui nous semble avoir disparu, alors qu'elle est disparue de nos préoccupations, disparue de nos états de réflexion, de nos états d'âme, alors que se retourner sur quelqu'un, sur quelque chose qui vous a apporté et qui vous a nourri, qui vous a enrichi, c'est vraiment quelque. Enfin, c'est une attitude extraordinairement belle et qu'on rencontre quasiment plus. Même dans le langage, vous savez comme moi que dans le langage, par exemple, on ne dit plus que la terre donne quelque chose. On dit qu'elle produit, un arbre produit. Et c'est très significatif ce changement de terme. Le langage reflète notre ingratitude, en fait, vis-à-vis de tout ce qu'on reçoit aussi. Alors chez Épicure, moi, ce qui m'a passionnée, c'est sa manière d'aborder la liberté. Pour lui, Épicure a souvent été réduit à un hédonisme. Vous savez, l'hédonisme dont on parlait beaucoup il y a 10 ans, on en parle un peu moins vu que nous vivons des crises et des catastrophes en chaîne. Mais c'est pas du tout le carpe diem auquel on l'a réduit. Épicure pense que nous sommes libres et nous avons un pouvoir sur notre vie. Ça, déjà, ça m'a intriguée. Ensuite, il pense qu'il n'y a absolument aucune dichotomie, aucune contradiction entre la matière et l'esprit, entre le corps et l'âme. Ça m'a complètement séduite, parce que depuis le temps que on nous parle justement de cette séparation, depuis le temps qu'on entend dire que la prise, le corps c'est la prison de l'âme ou ce genre de choses, voilà. Tout à coup, un philosophe dit non, c'est une unité qui dans ses différentes facettes a ses besoins nécessaires auxquels il faut répondre. Bon, alors j'ai continué ma lecture, mes recherches sur Épicure. Pourtant, les leçons de philosophie de ma classe de terminale au lycée de Saint-Cloud étaient un peu loin. Et je ne lis pas trop de philosophes à part Bachelard, mais ça, c'est une exception. Donc, j'ai trouvé chez Épicure Une troisième notion qui est pour lui fondamentale, c'est la mesure. Bien sûr, il faut vivre ce que le corps demande à vivre. Il faut vivre ce que l'esprit demande à vivre, et l'un et l'autre vous apportent une jubilation. La jubilation de la réflexion, la jubilation de la connaissance, la jubilation de la découverte. Bon, pour le corps, pourquoi pas la gourmandise, la sensualité, le plaisir de courir, enfin bref, tout ce que le corps peut nous offrir. Simplement, tout ça a une limite. Et cette limite, c'est notre condition humaine. Limitée dans le temps, limitée dans l'espace, limitée dans des désirs qui doivent être nécessaires et non pas superflus. Et là, vraiment, Épicure nous intéressait de plus en plus. Parce qu'on vit dans une société du superflu, en tout cas en Occident, parce qu'on vit dans cette société qui nous invente des besoins dont on a strictement rien à faire, et parce qu'on est pris dans tout ce système qui se nourrit lui-même. Et pourquoi ? Donc, et chez Épicure, il dit très clairement, on s'arrête, on s'assoit, on regarde autour de soi, on réfléchit à ce qui nous nourrit véritablement. Et on en reste là. Quant à la métaphysique, c'est pas du tout son domaine. C'est aussi ce qui me plaît chez ce philosophe. Il est là pour nous enseigner, si tant est qu'il y arrive, ou si tant est qu'on ait envie de recevoir son enseignement. Il est là pour nous enseigner comment faire pour avoir une bonne vie. C'est le but de la philosophie, c'est d'enseigner aux hommes. Comment ils peuvent vivre une bonne vie, et pas des questions sans réponse, pas des questions sur l'au-delà, pas des questions, enfin vous voyez, sur la métaphysique en général, non. Et ça, véritablement, je me suis dit, eh ben ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup de le lire, ça vaut le coup d'essayer de le comprendre, et ça vaut peut-être le coup d'essayer de partager avec vous, voilà.
Oui, ça se situe à hauteur d'homme et dans une vie. C'est ça aussi, je pense, qui nous a intéressés. Et ça dépend, il dépend de nous que nous améliorions notre vie. Alors, il donne des moyens. Bon, Épicure enseignait dans son jardin et ses disciples cultivaient ce jardin avec lui. Donc, c'est vraiment à hauteur de vie, de nature et de temps humain. Il met l'accent sur les choses qui l'émerveillent. Je pense que les conversations, l'amitié, des choses qui sont tout à fait la frugalité, des choses qui sont effectivement à portée de main et à portée de cœur. Donc cet aspect-là nous a séduit. On va pas vous détailler le sommaire entier de la revue. Juste deux choses. D'abord, Robert Harrison a eu l'immense gentillesse d'écrire un texte pour présenter en fait ces trois numéros. Donc, ce numéro commence par ce texte de Robert Harrison qui nous parle d'Épicure et la manière dont il le voit, mais avec lequel on est plutôt partant. Épicure aujourd'hui et qui souligne à quel point l'enseignement d'Épicure doit être réactualisé et remis en avant. Et puis, sur ce thème-là, comme sur ces trois thèmes, en fait, le premier texte de Catherine Chalier, qui est une philosophe qui avait écrit une préface pour un très ancien numéro de la revue Autrement, consacré à la patience, qui est un texte très beau, très, très, très bien écrit, très, très littéraire, très, qui pose la question aussi, parce que ces trois dispositions ont d'une certaine manière été, entre guillemets, récupérées par les religions, et notamment la religion catholique et chrétienne. Donc c'est pas sur ce plan-là qu'on se place dans ce numéro-là, et ça sera la même chose dans l'espérance, mais elle resitue bien, en fait, comment ces questions ont aussi à voir avec ces traditions-là et cette spiritualité-là. Voilà, et dernière chose, on a noué pour ces trois numéros un partenariat avec la Fondation Custodia, qu'on aime beaucoup, et on va généralement voir leurs expositions. On a été très impressionnés et très séduits par plusieurs expositions qu'ils ont consacrées à des graveurs contemporains néerlandais. Et donc, ils ont un fonds important de ces gravures. Et donc, on a noué un partenariat avec eux pour que les couvertures et le cahier central, puisqu'il y a toujours un cahier central d'images, soient tirés de gravures qui font partie de leur collection. Donc ça, et sur ce thème de l'hiver, du printemps, et parce que là, ça va plutôt être sur les saisons. Voilà, sinon, ces numéros sont construits comme sont généralement construits les numéros de Mirabilia, avec un ensemble de textes littéraires et d'essais. On est attentif aux peintres, donc il y a un article qui traite du Caravage et de la patience de la jeunesse, qui est une expression de Joseph Conrad, qui est appliquée aussi au Caravage. Et un article sur la patience dans certains des œuvres de Chardin. Il y a une série de petites scénettes très drôles sur la salle d'attente du psychanalyste, qui ont été écrites par une psychanalyste et qui, à partir, je pense, de sa pratique, imagine des patients lui parlant de sa salle d'attente. Et ce sont des choses très, très parlantes, très drôles. Elle n'a pas l'air de faire les choses sérieusement, mais en fait, c'est des choses très, très profondes et très, très sensibles. Et puis,
Myriam Ruby, que nous avons rencontrée il y a déjà quelques années, 5-6 ans, qui a déjà écrit un conte. Alors, Myriam Ruby, commençons par le commencement, et du côté de l'oral. C'est une conteuse. Elle revendique l'oralité, nous n'avons rien contre, et surtout quand nous sommes face à une personne aussi douée, mais bon, il ne faut pas que je le dise trop fort parce qu'elle va rougir complètement. Bon. Voilà, donc nous lui avons demandé, est-ce que la patience te dit quelque chose dans ton univers des contes ? Et Myriam m'a dit, je veux réfléchir. Oui, et elle a écrit un conte inspiré d'une légende soufie, c'est ça ?
C'est ça, c'est exactement une légende, puisque ça parle de quelqu'un qui a réellement existé.
Voilà.
Et autour de qui les poèmes, les légendes ont fleuri. Alors on ne sait pas trop, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, mais à la limite, c'est ce qui fait la beauté de sa légende. Voilà, c'est de ne pas savoir.
Est-ce que tu veux le dire maintenant ce...
Oui, volontiers. Tu as dit quelque chose sur le corps, la matière et l'esprit dans les religions. Justement, chez certains soufis, le corps, je crois que c'est Rumi qui disait ça, je ne sais jamais si c'est Rumi ou Younous, qui disait que le corps humain, c'est la Kaaba, c'est le temple, c'est la synagogue, c'est la forêt des biches, etc. Que la mosquée, qu'elle est partout, quoi, en fait, que tout est dans le corps. Mm-hmm. Voilà, juste pour dire qu'il y a des exceptions. Bon, je vais me mettre debout parce que vous êtes un peu. Alors, on va voir si je vais essayer de ne pas le faire tomber. Je vais vous emmener. En Anatolie, j'y suis jamais allée. J'y suis jamais allée, mais j'imagine que la steppe est raclée jusqu'à l'os. J'imagine au-dessus un ciel lisse. Et entre ces deux immensités, un homme tout petit qui marche. Il marche avec un luth à l'épaule. Sur sa tête, il y a un turban. Et ce turban est de la couleur des tourbillons de poussière qui hantent la steppe. Ces petits tourbillons de poussière qui lui font penser au derviche tourneur, comme si un danseur pouvait se dissoudre dans son mouvement. Il a le visage tout le temps mobile, comme quand on parle très fort en soi. Ses yeux sont comme de l'eau mouvante. Et oui, il parle à quelqu'un. Il parle à son amant, son ami, son aimé. Il parle à son Dieu. Son Dieu dont tout lui parle. Le caillou et sa méditation lente. La noria qui grince. Et l'âne éreinté qui fait tourner la noria. Tout lui parle de Dieu. de son amant, de son aimé. Il s'appelle Younous, c'est un nazique, un troubadour du divin. Il est en quête, et sa quête de lumière l'amène d'un maître à un autre maître. Et là, justement, il revient du monastère d'Assi Bektas, le fondateur des Bektachiens. Et sur ses conseils, il va vers un autre maître de haut vol. Ce sont tous des maîtres de haut vol, mais littéralement. C'est-à-dire qu'on dit qu'il se transforme en oiseau. Assi Bektas se transformait en colombe. Et là, il va vers le temple de Taptouk, celui qui fut guerrier impitoyable, qui perdit la vue d'un coup de sabre et, avec l'aide de sa femme, se fit moine voyant. Il va vers sa communauté. Il finit par arriver devant la petite Zawiya, c'est ça, ça veut dire petit monastère. Il frappe à la porte en bois, on ne lui répond pas. Bon, il sait qu'on n'entre pas dans un monastère soufi comme ça, donc il prend patience, il s'allonge, il attend. Un jour passe. Le deuxième, il frappe, on n'ouvre toujours pas. 3 jours passent, sans nourriture, sans eau. Et lui, il est entre vision et délire. Au 4e matin, la porte s'ouvre sur un grand homme aveugle qui s'appuie sur une petite femme. Entre Younous, c'est Taptouk. Alors on accueille Younous, on le nourrit, on l'abreuve, on lui désigne une paillasse. Mais rien ne se passe. Alors il va voir Taptouk et lui demande quels exercices, quelle méditation il doit pratiquer. Sans un mot, Taptouk l'emmène jusqu'à un réduit et là il lui désigne un balai en branches de noisetier et il lui désigne une petite cour poussiéreuse. Leçon d'humilité, se dit Younous. Il prend le balai et il balaye et la poussière de la cour aussitôt soulevée retombe en petit tourbillon. Petit à petit, il trouve son rythme. Il se met à balayer, comme on dit, les 99 noms de Dieu, comme on égrène un chapelet, enfin il balaye comme on prie. Le lendemain, il retourne voir Taptouk et Taptouk à nouveau lui désigne le réduit, la cour. Il s'agit de briser mon orgueil, se dit-il. Alors, il balaye. Il balaye la poussière et il dit qu'il y a des nuages de poussière, une poussière de nuages. Le haut, le bas se mêlent. Il balaye son âme. Et de son âme s'envolent des mots, des mélodies, comme ça, qui lui viennent sans y penser. Les jours suivants, il retourne voir Taptouk, comme chaque fois il lui désigne le balai, la cour. Les années passent. 10 ans passent. Et un beau jour, Younous se dit, mon maître me méprise. Il se moque de moi, il pense que je ne suis pas digne d'apprendre. Alors il jette le balai, il pousse la porte un matin et il part. Et il va là où ses pieds le mènent. Et il s'aperçoit qu'il entend, il voit tout de façon plus claire, plus aiguisée. Il entend mieux qu'avant la méditation de la pierre. Il revoit la noria qui grince et il comprend mieux sa prière plaintive et cette âne éreintée qui espère. Il marche comme ça un temps et puis là-bas être un grand soufi, les grands soufis ont un ventre aussi et au bout d'un temps il a faim. Il a faim et il n'est pas mécontent d'apercevoir au loin une yourte. Alors sur ses jambes flageolantes, il va jusqu'à la yourte, soutenu par les sons de voix, les bruits de casseroles. Il soulève la tenture en feutre. Et là, il voit des gens comme il n'en a jamais vu, bariolés de vêtements de toutes les couleurs, les yeux cernés de kohl. On l'accueille, on le met près du brasero pour qu'il se réchauffe. Et il les regarde, il les observe, il n'a jamais vu des gens, des hommes et des femmes aussi libres de leurs paroles, leur silence, leur rire. Mais il a toujours faim. Alors, il a un vertige, il ferme les yeux, et quand il les rouvre, sur le kilim, il voit des plats, mais des plats de roi, des viandes luisantes, des légumes teintés d'épices, des pyramides de gâteaux de miel. Il a tellement faim qu'avant de poser la question qui lui brûle les lèvres, il mange. Et puis quand il est rassasié, un homme assis en face de lui, il demande « Enfin, où trouvez-vous ces plats de roi, homme du vent ?» Et l'homme lui répond « Ce sont des chants apportés par le vent. Il suffit qu'on les chante. Et tout ce qui nous manque nous est donné. » Quel chant ? Demande Younous. L'homme s'essuie la bouche, il va chercher son luth. Et avec les autres, il se met à chanter. Une chanson qui parle de la prière grinçante d'une noria, d'un âne épuisé mais qui espère, de l'éclat épineux d'une fleur. C'est sa chanson, il la reconnaît. Dès le lendemain, il retourne au monastère, il frappe à la porte, pas de réponse. Il s'allonge devant la porte et 3 jours, 3 nuits, il patiente. 3 jours, 3 nuits pendant lesquels il ne cesse de remercier pour cette rencontre. Le matin du 4e jour, la porte s'ouvre sur Taptouk. Est-ce toi, mon bon Younous ? C'est toi. Tu m'as manqué. Et Younous est resté jusqu'à la fin de ses jours auprès de Taptouk Emre et de sa famille qui est devenue la sienne. Parfois, il allait au bord d'une rivière qui coulait pas loin et qui lui rappelait son propre voyage. Et un jour, on ne l'a pas retrouvé, il s'est évaporé auprès de cette rivière. Parce que malgré tous les tombeaux qu'on lui prête, il est nulle part ailleurs que dans ses chants, ses mélodies, qu'elles soient de lui ou pas, et dans toutes les légendes qu'on lui prête. Voilà, c'était l'histoire de Younous qui est devenu Younous Emre.
Merci beaucoup. L'association de cette patience et de la musique me fait penser que dans ce numéro sur la patience, alors il y a toujours un entretien, ou parfois plusieurs, mais sous un seul entretien dans Mirabilia, dans chaque numéro. Et on s'est demandé, pour vous donner un exemple de la manière dont ces numéros sont construits, on avait eu deux idées, deux envies d'entretien. L'un, c'était avec un luthier qui fabrique des violons. Donc cette musique aussi qui s'en va, et avec l'idée que pour faire un violon il fallait beaucoup de minutie, beaucoup de patience, que c'était quelque chose qui demandait énormément de temps. Donc on est allé voir ce luthier qui s'appelle Jean-Michel Desplanches et qui nous a parlé assez merveilleusement de ce métier. Alors il n'a pas parlé de patience, il a parlé de concentration en fait, mais c'est une chose, deux attitudes qui sont un peu voisines. Et donc il nous parle de la nécessaire concentration, mais sur chaque geste, sur chaque pièce du violon, et sur chaque assemblage, sur chaque pose de vernis, sur chaque fabrication de vernis, sur voilà.
Donc, c'est quasiment devenir la pièce sur laquelle il travaille pour la faire du mieux possible. Et ça, c'est magnifique, quoi. On fait pas des pièces détachées comme ça, qu'on monte ensuite, et puis non. Et pourtant, il a 50, enfin, il a quoi? Oui, 45, 50 ans de métier. Et plus il va, plus il arrive à entrer dans ce qu'il est en train de faire, aussi petit qu'une clé de musique. Et, ouais, c'était un très bel entretien. Il dit aussi, mais moi je suis qu'un artisan, alors qu'il est beaucoup plus qu'un artisan. En tout cas, il est un passeur entre un instrument et un musicien. Et ça aussi, c'était très beau quand il nous a raconté. Mais quelquefois, il y a un violoniste qui vient et qui me dit, le violon va pas. Il faudrait que tu le rectifies, que tu le corriges, tu ceci, tu cela. Et lui, au bout de 50 ans de métier, il sait que c'est pas le violon qui va pas, c'est le musicien qui va pas. Ou l'accord entre les deux ne va pas.
Ne va plus.
Ou ne va plus. Parce que le musicien a changé. Et le violon est resté le même. Donc, toutes ces, d'abord, c'est la modestie de cet homme, et puis ensuite toutes ces nuances là qui font que son métier plus que sa vie, c'est presque sa chair. Chaque instrument est... Bon, c'est une métaphore un peu éculée, je suis désolée, mais elle est très vraie. C'est son enfant qu'il passe ensuite à un musicien. Bon, c'était très beau, ça. Hein.
Et donc, l'entretien auquel vous avez échappé, puisque comme Charlie Hebdo avec ses couvertures, mais qui était aussi, qui nous aurait aussi beaucoup intéressé, ouais. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire, c'était un entretien avec un syndicaliste. En posant la question, quelle est la place de la patience dans une négociation ou dans
une tractation.
Et bon, c'était un sujet. Alors, quand on leur a posé la question, on a approché un syndicat. Ils nous ont dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Après, ils ont compris en quoi ça pouvait les intéresser. Bon, malheureusement, la réforme des retraites les prenait à la gorge et ils n'avaient plus le temps de nous recevoir. Voilà. Mais c'était les deux pistes qu'on avait. On a pu réaliser ce très bel entretien avec le luthier.
Mais en fait, l'entretien avec le syndicaliste ou une syndicaliste, on pourrait le faire pour le numéro sur l'espérance. Hein.
Alors,
essayez de faire.
On ne vous dit pas les entretiens qu'on projette pour l'espérance parce qu'il faudra attendre le numéro. Mais c'est pareil, à chaque fois, il y a plusieurs pistes possibles de gens. Quand on les contacte, généralement, ils sont très surpris en disant mais qu'est-ce qu'on a à voir avec ça? Et puis, voilà, l'entretien se fait et on comprend qu'on est dans le sujet, en tout cas dans un certain aspect du sujet, et ils répondent généralement présents de belle manière. Voilà un peu pour ce numéro sur la patience. Donc le prochain qui devrait sortir, si tout se passe bien au début de l'été, concerne l'espérance. Comme l'a laissé entendre Anne, en 2023, faire un numéro sur l'espérance, c'est un peu compliqué. Et c'est un paradoxe. Alors, on travaille sur le sujet et on dit aux gens, bah alors, pour vous, l'espérance, c'est quoi? Ils disent, je ne sais pas, mais c'est très important, en fait. Il faut qu'on ait de l'espérance et de l'espoir, sinon on ne peut pas vivre. Mais quand on leur demande, oui, d'accord, mais c'est quoi? Et les gens nous disent, mais je ne sais pas, en fait. Voilà, donc c'est un sujet, mais c'est ça qui est aussi intéressant. Si on s'en réfère à Épicure, c'est une chose très, très subtile. Ce n'est pas une espérance dans un avenir... Ou dans un au-delà qui rachèterait tout, si je puis dire. C'est pas du tout ça. Il dit, de toute façon, on va mourir. Les dieux, c'est pas notre problème. Ils s'occupent d'eux. Ils s'occupent pas de nous. Donc l'espérance, pour lui, est à rechercher toujours dans une sorte de quotidien, en se basant sur des choses qui ont été faites ou qui nécessiteraient d'être faites. C'est très subtil, c'est pas du tout un grand soir, un miracle.
C'est presque plus, le terme plus exact serait presque une confiance. J'ai confiance dans ce que je suis en train de... Enfin, pas dans ce que je suis en train de faire, mais dans l'objet, la matière, la personne avec qui je suis en ce moment. Et par exemple, notre échange donnera quelque chose. C'est cette confiance-là pour lui, l'espoir et l'espérance. Et en effet, au-delà, il n'y a pas. Pour Épicure, nous n'avons que cette vie. Le reste, on ne sait pas. Donc, ce n'est pas la peine de s'interroger sur le reste. On a déjà bien assez à faire avec cette vie-là. Et donc, cette notion d'espérance, qui est en plus une notion chrétienne, dans l'Antiquité grecque, on parlait d'espoir et non pas d'espérance. Et nous voulons aborder ce sujet d'une manière laïque, enfin d'un point de vue laïque. Et je suis pas sûre que nous parlerons de l'espérance dans un au-delà, vu que voilà, c'est pas du tout notre visée, quoi.
Voilà, mais donc on est en train d'y...
Donc, si vous avez des idées, je vous passe le micro et on vous écoute avec beaucoup de plaisir. Si vous avez des idées sur l'espérance ou l'espoir.
Bon, avant toute chose, je tiens à dire que j'ai, comme d'habitude, bu avec délices et Mirabilia. Je dis bu parce que c'est une expérience sensorielle chaque fois, non pas juste un exercice purement cérébral, ça va largement au-delà. Comme d'habitude, les illustrations sont purement magnifiques. J'ai découvert ce qu'on faisait allusion, à savoir graveur, chez custodien, ainsi de suite. Voilà, c'est magnifique. L'enchaînement des textes, il est fluide. Boire, fluide, vous voyez, il y a quand même... Quant au reste, à savoir les notions de patience, de gratitude, ainsi de suite, que vous avez évoquées en préambule, je dirais, là-dessus, je suis un petit peu circonspect, au sens où on aurait le « on », je me méfie aussi du « on », c'est le regard de l'occidental, à travers toutes les échelles du temps, depuis l'Antiquité, hein, c'est pas neutre. Or, depuis maintenant quand même 30-40 ans, en particulier, il y a pas mal de chercheurs, et c'est pas dans cette maison qu'on pourrait dire le contraire. Hein. Donc, par exemple, autour de Descola, ainsi de suite, dire non, dans d'autres parties du monde, il y a d'autres regards, d'autres approches, où la notion de gratitude, elle est en acte, point. Donc, ouvrons-nous, et de ce point de vue, c'est pas un hasard, je citerai Descola, comme je pourrais dire Morisot, Desprez, bien des personnes que vous connaissez. Et puis aussi, je ferai aussi tous les penseurs de la décroissance. Ils sont déjà dans une logique, dans un continuum par rapport à Épicure, sans dire Épicure, mais c'est les notions de lenteur, de sobriété, d'entraide. C'est les penseurs, il y en a une myriade, une cohorte, et plus de façon beaucoup plus proche de nous, ben je penserai en particulier à des gens comme Pierre Fournier, à l'époque de la gueule ouverte, ceux qui l'ont connu, et GB, avec l'an 01. On est typiquement dans... Voilà. La notion d'espérance, je dirais que... Vous voyez, je fais partie, moi, des amis de la Confeysanne. Ben, quand on voit, par exemple, des jeunes ingénieurs agronomes qui disent « On ne rentre plus dans ce système-là, on a été... » On peut le dire, là, formaté, carrément. Hein. C'est non. Et aller, par exemple, créer des fermes paysannes authentiques, avoir d'autres rapports au sol, au monde vivant, aux autres. Donc, d'un point de vue social, économique, environnemental, on va dire, il coche toutes les bonnes cases. Et ça veut dire que par rapport à des situations qui, sur le plan social et économique, leur auraient permis de gagner vraiment plus que convenablement leur vie, là, c'est divisé par 3, par 4, voire par 10, point et y vont. Alors, si c'est pas ça la notion d'espérance, c'est l'espérance en acte. En acte. On ne théorise pas, on la met d'une façon extrêmement concrète. Donc je cite ce type d'exemple, et de plus en plus, on voit donc des jeunes diplômés. Bon, okay. Après, il faut aussi nommer les choses, à savoir de dire le « c'est pas bien », le « on », ainsi de suite. Bon, moi je dirais, on va se pencher sur l'anthropocène. D'aucuns vont plus loin en disant le capitalocène. Il faut le dire, de dire « on est la publicité, de ceci, ça ». Ça, non, ça s'appelle le capitalisme, qui a une capacité pour se régénérer et de nouveau coloniser les esprits. Donc, avant toute chose, on doit décoloniser les esprits et l'espérance passera par là, en acte. C'est pas un hasard si je citais l'exemple de ces jeunes qui disent on fait le pas de côté, concrètement, basta, ça suffit, voilà.
D'accord. Voilà une piste. Moi, je veux simple. Enfin. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites. Il y a en effet, il y a des revues, il y a des journaux, il se passe en effet des choses. Je suis tout à fait d'accord. Pour ce qui est de Mirabilia, il y a 2 ans, je crois, 2 ans, 3 ans, un numéro dédié à la Terre en tant que planète, la Terre en tant que matériau, la Terre en tant que humus. Et nous avons fait un entretien avec un céréalier de l'heure qui est passé de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique. Pour un céréalier, c'était un saut dans l'inconnu assez audacieux, disons. Donc, nous abordons aussi ces thèmes-là. Nous les avons abordés, nous les aborderons à nouveau dans d'autres numéros. Mais... Vincent, ce midi, me disait « Nous sommes de plus en plus militants ». Oui, c'est vrai, nous voulons l'être, parce qu'il y a urgence à l'être, et en même temps, c'est Mirabilia, c'est pas un manifeste là. Alors, je voulais vous signaler, vous remercier aussi que vous avez commencé par dire que Mirabilia n'était pas seulement une chose, un objet intellectuel, abstrait, et qu'il défendait un côté sensible. Et ça, franchement, ça nous fait extrêmement plaisir, parce qu'en effet, on essaye en tout cas que ces deux aspects-là, qui sont la totalité dont on parlait tout à l'heure, soient présents à chaque fois.
Mais je pense que dans ce numéro, alors je ne sais pas, mais on essaiera effectivement de... Enfin, c'est pas on essaiera, je pense qu'il y aura des pistes vers ces gens qui font des choses concrètes. C'est tout à fait concret, c'est tout à fait réel et ça se passe. C'est pas c'est pas une utopie, c'est pas dans une île lointaine. Donc, je pense qu'il y aura des choses qui témoignent de cet aspect-là de l'évolution en fait de nos sociétés. Et pour ce qui est d'autres cultures, je repense au numéro sur la Terre où on avait reproduit un manifeste fait par des Indiens de Guyane en fait, qui luttaient contre l'État français. Parce qu'ils n'avaient pas la même notion de la propriété de la terre et qu'il y avait une incompréhension qui perdure toujours d'ailleurs. Donc ces autres cultures-là ont aussi à nous apprendre effectivement sur ces notions-là.
En fait, je vais faire des remarques très terre à terre qui concernent tous les gens qui font des revues ici. Il y en a quelques-unes. Les trois vertus épicuriennes que vous avez nommées, les tricoté avec votre talent habituel, s'applique bien à l'exercice de la revue, au fond. La patience, Dieu sait qu'il en faut pour faire une revue. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il en faut aussi pour la lire. Ça fait presque partie de son ADN, cette lenteur désirée, désirable, trop peu désirable. Alors c'est peut-être ça l'espérance qu'on peut avoir pour les revues. La passion qu'on met à l'affaire soit un peu partager plus largement, plus reconnu, en tout cas déjà. Ça, c'est une forme d'espérance. Et la gratitude, d'abord, avoir beaucoup de gratitude pour ceux qui font des revues. On sait à la fois cette dépense, cette générosité, cette ouverture vers l'autre que représente la revue, qui ne serait rien s'il n'y avait pas les autres pour la faire avec nous. Donc, voilà, c'est la gratitude et les quelques lecteurs qu'on rencontre qui, comme monsieur, vous font un éloge tout à fait mérité. J'ai dit que cet éloge, vous le méritiez avant même d'avoir fait votre premier numéro, qui était une splendeur et que la revue n'a jamais démenti.
J'ajouterai une chose sur les revues. Pour moi, c'est très important. Mais alors, que comme la vie humaine, les revues est une fin. Que ce soit par définition quelque chose de toujours extrêmement fragile et que d'une certaine manière la nature même de la revue c'est d'être éphémère. Alors il y a des contre-exemples bien sûr, il y a des revues qui durent depuis on en parlait tout à l'heure depuis le 17e ou le 19e siècle mais pour moi c'est plus des musées ou des momies que voilà, mais que par définition une revue c'est quelque chose qui se termine quoi. Pas tout de suite pour Mirabilia. Hein.
Oui, je vais pas du tout répondre à la question sur l'espérance parce que je ne sais pas, je ne saurais pas. Enfin, si j'avais pensé à la confiance, mais la question pour moi, c'est comment vivre sans espérance.
Oui, moi je suis d'accord avec toi. Pour moi, la question de l'espérance ne se pose pas en fait, jusqu'à ce qu'on décide d'explorer un peu ce domaine. Et qu'on se retrouve et qu'on constate que, par exemple, chez pas mal de philosophes, l'espérance est une chimère, une illusion qu'il faut absolument écarter, parce qu'elle vous entraîne sur des chemins que, soi-disant, la réalité ne tiendra pas, et que la raison n'a rien à faire avec l'espérance. Bon. On a été très très étonnés en fait en creusant ce terrain de trouver tant de penseurs avec des réflexions négatives sur l'espérance, alors que pour moi en effet elle est synonyme d'élan vital. Donc il n'y avait pas vraiment de questions à se poser. Elle est si unie à la vie, c'est le moteur de la vie. Bon, mais c'est pas comme ça pour tout le monde, quoi. Enfin, c'est évident. Maintenant. Et en plus, je trouve que les gens, enfin les personnes qui nient l'espérance, alors vous allez peut-être penser que j'exagère, mais c'est par orgueil. Ce côté, bon, finalement, c'est une chimère, finalement, c'est une illusion, et à moi, on me la fait pas parce que je suis très intelligent et très lucide. Bon, je vous avoue, entre vous et moi, ça me tape sur les nerfs. Bon, voilà, la lucidité, il faut la mettre en pratique sur autre chose, mais pas sur cet élan vital, justement, qui vous porte vers les autres, qui vous porte à faire des choses, qui est un trésor, en fait, un trésor de vie, quoi.
Oui, peut-être que l'espérance s'oppose à... J'ai oublié le mot. J'avais trouvé un très joli mot. Il me reviendra, désolée. Si, à la renonciation, au renoncement, peut-être que c'est le contraire de la résignation, l'espérance.
Vous me faites penser à cette phrase que j'adore, je l'ai là, qui serait soufie aussi, enfin je ne sais pas, et qui est « La veille de la fin du monde, si tu as des graines dans ta poche, plante-les. » C'est fort, hein.
Cela fait plaisir de réentendre votre voix, chère Myriam, parce que on espère que la revue va durer quand même, encore au moins dans 3 saisons, et on s'en réjouit d'avance et bien longtemps ensuite. Il y a en plus autre chose, c'est que vous faites cette revue, et quel bonheur à chaque numéro, et vous savez aussi l'accompagner, parce que c'est une chose que de réunir les auteurs, de choisir illustrations, textes, beaux papiers également, ce grain, ce particulier, chaque fois qu'on la feuillette ou qu'on la lit, mais également de l'accompagner par ce type d'événements, de lectures, de contes. Par exemple, est-ce que vous sauriez parler et de la patience de la réunion pour faire la revue, puis de cette présentation, cette mise en autre mot, autre parole, en son, en musique parfois? Parce que vous y mettez, je trouve, autant de cœur et de talent.
Si, si. Non,
je pense pas que ce soit le talent. C'est d'abord, on choisit les thèmes en fonction de nous, bien sûr, et non pas d'une actualité ou non pas d'un intérêt philosophique ou non pas. Non. C'est quand on a commencé cette revue en 2011, on... Bon, peut-être je l'ai déjà dit, nous l'avons déjà dit, on a dressé une liste de choses que nous aimions, et d'écrivains que nous aimions, de peintres que nous aimions, enfin de rencontres, qu'elles soient physiques dans la vie ou qu'elles soient par l'intermédiaire d'un livre, d'un instrumentiste, d'une exposition de peinture, et on s'est dit c'est avec eux que nous voulons faire ces numéros, voilà. Et on a eu une succession de coups de chance absolument faramineux. Surtout le premier numéro, on avait un projet. Parler du merveilleux, c'est très 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 beau, mais c'est très très vague, quoi. Et donc vous arrivez, vous frappez à une porte, et on avait un projet de 2 pages, et on était pas grand chose, quoi. On était pas connus, on n'était pas des grandes figures, on appartenait pas aux médias, etc. Et sur ces 2 pages, des gens nous ont suivis tout de suite, nous ont dit oui tout de suite, et on en est resté complètement stupéfait. C'est-à-dire que dans ce désir de retrouver un merveilleux, pas un monde réenchanté, mais ce désir de dire la beauté du monde existe, il y avait plein de gens qui étaient partants pour le faire avec nous. Et voilà, ensuite ça s'est enchaîné. Et c'est notre plaisir. Bon, on espère le partager, et vous nous faites vraiment plaisir en le partageant avec nous. Parce qu'il n'y a pas seulement un plaisir, notre plaisir, pas l'écriture, mais contacter Myriam et lui dire, bon, écoute Myriam, ça te dit quelque chose, la patience, là, dans tout ton monde immense des légendes, des contes, des mythes, de l'oralité, et l'entendre dire, bon, je réfléchis, et puis 3 semaines après, bon, Anne, j'ai une idée. Ah oui, pour laquelle, et discuter, c'est Qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? C'est ce que dit Épicure. Pour que l'amitié...
C'est votre enthousiasme. C'est votre enthousiasme qui est contagieux. Hein. On a envie de
et ben jouer avec vous. On joue ensemble. Et c'est ce que dit Épicure aussi. Pourquoi met-il l'amitié tellement haut ?
Et la conversation.
Et la conversation qui va nourrir cette amitié.
Une revue, c'est aussi une conversation, en fait, qu'on a nous-mêmes et avec d'autres. Quand on a interrompu la parution de Mirabilia après le numéro sur le silence, c'était pas calculé. Mais en fait, on a été très tristes après l'un et l'autre, et très tristes de toutes les rencontres qu'on n'aurait plus. J'ai parlé de ces entretiens, mais ces rencontres avec des scientifiques, avec un agriculteur, avec un clown, avec un sourcier, avec un restaurateur de miroirs, avec un luthier, avec etc. etc. C'est des moments. Enfin, c'est pour ça qu'on c'est ça qui fait Mirabilia, et c'est pour ça qu'on le fait, en fait. C'est de la rencontre avec des gens qui passent leur vie à faire des violons, à chercher de l'eau. À faire le clown et c'est leur vie et ils sont absolument émerveillés, y compris pour le botaniste et y compris, je sais pas les exemples, ils sont émerveillés et ce qui nous donne là à ce moment-là, c'est exactement pour ça qu'on fait Mirabilia et c'est pas dans un absolu, c'est des gens qui travaillent avec la matière, avec les miroirs, c'est pour ça exactement qu'on fait cette revue, c'est parce que ça nous nourrit. Et on espère que ça nourrit un peu les autres. Alors, ça nécessite de la patience, un tout petit peu d'obstination. Mais on y arrive. Enfin, j'espère qu'effectivement, je pense que les revues sont éphémères et que c'est très bien. Mais je pense que je n'ai pas envie du tout d'arrêter. La preuve, c'est qu'on a repris. Donc,
Mais c'est tout à fait vrai quand on a décidé, le silence. Et puis, il y avait aussi... Il y a aussi un aspect très concret qui s'appelle l'aspect financier. On pourrait parler de l'aspect financier, enfin des revues et des difficultés dans lesquelles elles se trouvent en permanence. Donc il y avait aussi cet aspect qui a fait que nous, à un moment, on s'est dit, on arrête, on n'a plus d'argent, c'est très clair. Bon, et surtout qu'on était parti billes en tête, 5-6 ans avant, et sans penser à des choses complètement que n'importe quelle personne un peu dans le commerce aurait immédiatement pensé. Nous, je vous donne un exemple. On a un tarif de la poste au-dessus de 500 grammes, on passe à un échelon supérieur. Le premier numéro, il faisait 502 grammes. Bon, on n'avait même pas pensé à ce genre de truc, quoi. Donc, d'un autre côté, il fallait que nous remettions tout à plat et qu'on prenne aussi la mesure de cette réalité-là. Donc, combien coûte un papier, combien coûte une impression, combien et c'est la réalité aussi. Hein. Bon, voilà. Donc, on a fait des comptes, on a fait nos comptes et on s'est dit bon, on peut revenir et on a été très contents parce que c'est vrai qu'on était tristes. C'est vrai que ça avait un trou énorme, quoi. Mirabilia n'est plus là. Bon. Alors on a autre chose à faire aussi, hein. C'est pas seulement Mirabilia dans notre vie. Hein. Bon, Vincent fait d'autres choses, moi aussi. Mais non, c'était un manque, c'était un trou.
On peut aussi juste dire un mot. Alors je vais être très bref de l'imprimeur. Une revue, c'est du papier, c'est une impression, c'est de l'encre, c'est un façonnage. Et on a eu le bonheur de trouver après des errances en Italie. Où il y a d'excellents imprimeurs, mais on a eu bonheur de trouver un imprimeur avec lequel j'ai l'impression en discutant avec lui que il aime ce qu'on fait en fait et que il y apporte beaucoup d'attention et de conscience et c'est un vrai bonheur d'avoir trouvé. Ouais. Je vais le citer, il s'appelle Arrêt Caractère, ils sont dans le sud de la France, mais ils font un travail absolument. Absolument excellent.
Et ils ont la fierté du travail bien fait. Donc,
et c'est aussi important cet aspect-là. Alors, on en parle moins parce qu'on a moins l'occasion d'en parler, mais cet aspect très technique de fabrication et d'échange avec ces métiers-là, c'est aussi l'aspect financier, puisque c'est vrai que ça devient très problématique. Enfin, les prix ont explosé.
Je vais faire très court à propos de l'espérance. Dans l'histoire, moi je suis un fils de la Retirada, pour ceux qui connaissent, fils de républicain espagnol pour dire les choses autrement. C'est absolument authentique, un jour. Donc il y avait les gendarmes français qui narguaient ceux qui passaient la frontière, en ayant des faits, ainsi de suite. Et l'un d'eux croit bon de narguer des combattants en lui disant « Vous avez perdu toutes les batailles, vous avez perdu toutes les batailles ». L'autre a eu un sens de la partie extraordinaire, il a dit « On a peut-être perdu toutes les batailles, n'empêche, nous avions les plus belles chansons ». Moi, là-dedans, ce que je retiens, c'est de dire « Bon, les notions de justice et de beauté sont inséparables. On a peut-être perdu, d'accord, mais on était animé par un idéal qui nous dépassait. Mazal et Bivière des Pieds, qui mourir de Rodilias, que vous connaissez. Autre chose, l'espérance. Le Conseil national de résistance, n'est-ce pas, dans un pays qui était complètement dévasté, qui avait été meurtri, qui avait été martyrisé, ainsi de suite, eh bien, il trouve les moyens d'instituer la sécurité sociale et tant de mesures, les nationalisations, etc., qui permettent de relancer le pays et de mettre le fameux truc au travail, ainsi de suite, mais dans des conditions dignes. Voilà. Donc, à partir de là, mais franchement, dans un pays qui était exsangue, à tous les niveaux, qui aurait pensé, voilà, qui ne poignait jamais, mais non, on va, effectivement, c'est le moment où jamais deux. Bon, évidemment, après, si on fait une analyse politique, le patronat, le grand patronat, cela s'entend, qui avait été pour le moins très complaisant avec l'occupant, n'avait pas réellement son mot à dire, et qu'à partir de là, effectivement, avec le PC en particulier, qui avait une vision que je n'ai jamais partagée, mais c'est une autre chose, on retrousse les manches, etc., etc., mais néanmoins, le pays s'est redressé dans un laps de temps, voilà. Ensuite, au niveau des journaux, des petits journaux, par exemple, il y a des jeunes qui lancent des journaux, pas des revues, de très grande qualité, y compris sur la place parisienne, hein, par exemple, le Chiffon, hein, qui est éminemment sympathique. Ça veut dire avec des bouts de ficelle et avec beaucoup de talent, hein, il ne suffit pas d'eux. Et puis, eh bien, ils y vont. C'est une forme de dire, bon, on veut secouer le carcan, on veut secouer tout ça, toutes ces pesanteurs et tout et tout. Eh bien, c'est de dire, c'est une façon de... On part à l'abordage avec 3 francs, 6 sous, mais un corazon gros comme ça. C'est ça l'espérance, un acte.
Merci beaucoup à Entrevue pour son accueil, toujours, et son soutien.
Donnez-moi un micro. Merci à vous pour ce que vous faites. C'est vrai qu'on a glissé vers une question triviale, mais ô combien essentielle, effectivement, le nerf de la guerre. Mais vous avez évoqué ensuite l'imprimeur, et pourquoi pas un jour, justement, le faire entrer dans vos pages, hein, sur sa patience à lui, ou l'impatience des auteurs, éditeurs, ou encore des pistes à explorer. Y a-t-il d'autres questions? Non. Eh bien, merci à Mirabilia. Décidément, nous sommes impatients de découvrir donc les prochains numéros aussi, mais profitons de celui-ci. Le jeudi 13 avril, nous recevons, c'est un autre monde, la revue 591, avec Jérôme Duvat et Jean-Louis Bory. Nous vous espérons nombreux. Donc, dans quelques jours, quelques semaines, cette soirée sera sur Canal U, la chaîne FMSH et le petit coin d'Entrevue. En attendant, je vous remercie d'être revenus et vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci.